Chapitre 11. Contact. On décrirait peut-être mieux la légende du prophète blanc et de son catalyseur en expliquant qu'il s'agit d'une religion des lointaines régions méridionales dont seuls des échos sont parvenus jusqu'à Jamaïlia. À l'instar de nombreuses philosophies du Sud, elle déborde de superstitions et de contradictions, si bien que nul homme intelligent n'accepterait de souscrire à de pareilles fadaises. Au cœur de cette hérésie se trouve l'idée que chaque époque, on ne définit jamais cet espace de temps, voit naître un prophète blanc qui vient orienter le monde vers une voie meilleure. Il ou elle, et dans cette dualité du sexe, on peut subodorer un emprunt à la vraie foi de ça, œuvre par le biais de son catalyseur, personne désignée par le prophète blanc pour sa position privilégiée au point charnière où s'effectuent les choix universels. En modifiant les événements que vit le catalyseur, le prophète blanc permet au monde d'emprunter une route plus juste, plus heureuse. Il n'est guère besoin de réfléchir pour comprendre que, étant donné l'impossibilité de comparer ce qui a été à ce qui aurait pu être, les prophètes blancs ont beau jeu de prétendre avoir amélioré le destin général. Les adeptes de cette hérésie sont également incapables d'expliquer le concept d'un monde et d'un temps parcourant un cercle et se répétant à l'infini. L'étude de l'histoire que nous avons compilée montre à l'évidence qu'il n'en est rien, mais cela n'empêche pas les partisans de cette fausse croyance de s'obstiner dans leur aveuglement. Delnar, vénérable et sage prêtre de Sa, écrit dans ses opinions qu'il faut prendre en pitié non seulement les disciples de cette hérésie, mais aussi les prophètes blancs eux-mêmes, et démontre sans contestation possible que ces fanatiques soumis à leurs illusions souffrent en réalité d'un mal rare qui détruit la pigmentation de leur peau et provoque des hallucinations sous l'aspect de rêves prophétiques envoyés par les dieux. Culte et hérésie du Sud. De Wiflen, prêtre de Sa, monastère de Jorpin.
Imbre, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous tout de suite. Venez me rejoindre dans la salle de travail. Imbre, par pitié, entendez-moi, venez.
J'émettais frénétiquement cet appel en gravissant d'un pas chancelant les escaliers qui menaient à la tour du vieil assassin. Je ne sais même plus quelle mission urgente j'avais prétextée pour m'enfuir et laisser le fou qui n'était plus le fou, assis près du feu avec sa bouteille d'eau-de-vie. Le cœur cognant dans ma poitrine, j'obligeais mes jambes à me porter tout en maudissant mon corps débile. J'ignorais si Imbre captait mon message. Puis, en me traitant de tous les noms, je tournais mon attention sur devoir et lourd.
Je dois voir Sire Imbre immédiatement. C'est de la plus grande importance, trouvez-le et envoyez-le dans ma salle de travail.
Pourquoi ?
La question émanait de devoir. Quand enfin je pénétrai dans la pièce, titubant, en nage et à bout de souffle, je découvris Imbre assis devant la cheminée, l'air impatient. Il me foudroya du regard.
Qu'est-ce qui t'a retenu ? J'ai appris que tu étais revenu au château, et je sais que Sire Doré t'aurait transmis mes messages. Je n'ai pas toute la journée à t'accorder, mon garçon. Des événements importants se préparent qui réclament ta présence.
Non, fis-je en haletant. Laissez-moi d'abord parler.
Assieds-toi, grommela-t-il, et reprends ta respiration. Je vais te chercher de l'eau.
Je me traînai jusqu'au fauteuil près de l'âtre et m'y effondrai. J'avais poussé mon organisme au-delà de ses limites. Mon tour à cheval et ma séance d'exercice à l'épée avaient suffi à eux seuls à m'épuiser, et je tremblais à présent aussi violemment que le fou. Je bus le verre qu'Imbre me présenta, puis avant qu'il pût ouvrir la bouche, je lui rapportai tout ce que le fou m'avait dit. Quand je me tus, je haletais encore. Le conseiller de la reine ne répondit pas et réfléchit pendant que ma respiration se calmait peu à peu.
Des tatouages,
marmonna-t-il enfin d'un ton agacé.
La femme pâle.
Il soupira.
Je ne crois pas à ces prédictions, mais j'ai peur de les négliger.
Les sourcils froncés, il se replongea dans ses réflexions puis déclara.
Tu as vu le compte-rendu de mon espion. Il n'a trouvé nulle trace de dragon sur Aslevial.
Je n'ai pas l'impression qu'il ait effectué une recherche très approfondie.
Possible. C'est l'ennui des agents à gages. Quand l'argent s'amenuise, leur loyauté aussi.
Qu'allons-nous faire, Imbre? Il me regarda d'un air étonné.
C'est évident. vraiment, Fitz, tu as encore besoin de te reposer. Rien suffit à te mettre dans tous tes états. J'avoue toutefois être aussi surpris que toi par les tatouages du fou, ainsi que par les rapprochements qu'il en tire. Quand je lui ai demandé plus tôt dans la journée s'il avait connaissance de ce genre de pratique dans les îles d'outre-mer, il a répondu par la négative et changé calmement de sujet. J'ai peine à croire une telle dissimulation de sa part à mon endroit, mais...
Il se tut le temps que son esprit réorganise tous ses renseignements sur le fou et Sire Doré. Puis, il poussa un grand soupir et dit
« Nous savons, en effet, qu'une femme au teint pâle a conseillé Kébal Pincru pendant la majeure partie de la guerre des pirates rouges, mais nous supposions qu'elle avait péri en même temps que lui. Quel rapport pourrait-elle avoir avec Eliania? Et même si elle a survécu, pourquoi voudrait-elle se mêler de notre accord de mariage? Et surtout, pourquoi s'intéresserait-elle à toi ou à Sire Doré? Non, tout cela est trop tiré par les cheveux. »
J'avalais ma salive. La domestique Enya, la servante d'Eliania, elle parlait de quelqu'un en disant « elle », tout comme la Narcheska et Onde Noire, qui évoquaient cette personne avec crainte. Il s'agit peut-être de la femme pâle, qui est peut-être elle-même l'autre prophète blanc du fou. Dans ce cas, il se pourrait qu'elle nourrisse des projets de son côté, des projets qui risquent de contrarier les nôtres de façon imprévisible. Le vieil assassin se tut, examinant toutes les éventualités qui découlaient d'une telle situation, puis il haussa les épaules.
« Peu importe, » répondit-il d'un ton décidé, « notre solution ne change pas. »
Il leva deux doigts.
« Premièrement, le fou t'a promis que la décision t'appartiendrait de tenir ton serment envers les loin-voyants ou de tenter de sauver le dragon de sa prison de glace. Tu resteras fidèle à ton allégeance. Je ne doute pas de ta loyauté. »
La question ne me paraissait pas aussi simple que cela, mais je gardais le silence. Il replia son deuxième doigt.
« Ensuite, Sire Doré ne nous accompagne pas sur Aslevial. Par conséquent, si nous trouvons un dragon dans la glace, ce dont je doute fort, il n'empêchera pas de voir de le tuer, ou du moins de trancher la tête d'une vieille carcasse gelée, ce qui est à mon sens beaucoup plus probable. » Ainsi même, si cette fameuse femme pâle est toujours de ce monde et représente un danger pour lui, il restera hors de sa portée, et Sire Doré ne mourra pas.
Et s'il se rend sur Aslevial quand même, avec ou sans nous? Umbre braqua son regard sur moi.
Fitz, réfléchis donc, mon garçon. Il n'est pas facile d'y accéder, même en venant des îles d'outre-mer. D'ailleurs, il n'ira pas si loin. Il est en mon pouvoir de donner des ordres interdisant qu'on laisse monter Sire Doré à bord d'aucun navire en partance de Bourg de Castelserre. Ce sera discret, mais ce sera fait.
Et s'il change d'apparence? Le vieil assassin haussa ses sourcils blancs.
Souhaites-tu que je le garde enfermé dans un cachot pendant notre absence? Je dois être en mesure d'arranger cela, si cela peut te tranquilliser. On lui fournira un cachot confortable, naturellement, avec toutes les commodités. »
À l'évidence, il pensait que je m'inquiétais inutilement, et face à son scepticisme et à son sang-froid, la peur panique que le fou avait suscitée chez moi avait du mal à ne pas retomber. « Non, bien sûr, ce n'est pas ce que je souhaite, » marmonnai-je.
« Alors fais-moi confiance comme autrefois. Fie-toi un peu à ton vieux mentor. » Si je décide que Sire Doré ne quittera pas Castelserre par bateau, il ne quittera pas Castelserre par bateau.
Je ne trouve pas. Que dois-je faire?
Devoir paraissait complètement affolé. Umbre pencha la tête de côté.
Tu n'as pas entendu quelque chose?
Un instant, dis-je en levant la main. Ce n'est pas grave, Devoir. Il est avec moi. Tout va bien maintenant.
Que se passe-t-il?
Rien de grave, je vous le répète. Ne vous inquiétez pas. Je revins à Umbre. Ce que vous avez entendu, c'était Devoir en train de me crier qu'il ne vous trouvait pas. Il artise encore sur tous les toits quand il est angoissé. Tandis qu'un sourire se peignit lentement sur ses traits, Umbre déclara.
Non, tu dois te tromper. Je suis certain d'avoir entendu un cri au loin.
C'est l'impression que donne l'art au début, tant que l'esprit n'a pas appris à interpréter ce qu'il perçoit.
« Tiens donc !»
murmura-t-il. Son regard et son sourire se firent pensifs, puis il tressaillit et se tourna vers moi. « J'ai failli oublier pourquoi je t'ai appelé. Il s'agit de la rencontre entre la reine et les Vifiers. Elle aura bel et bien lieu. À ma grande surprise, on nous a annoncé la venue des représentants dans 6 jours. Il leur a fallu un peu de temps pour se rassembler, et ils demandent que la reine charge sa propre garde de les escorter sous pavillon de sauf-conduit. Ils désireraient aussi un échange d'otages, mais j'ai réussi à persuader Sa Majesté de ne pas donner suite à ces enfantillages. Dans 6 jours, ils nous enverront un oiseau messager pour nous indiquer où les trouver. Ils ont promis d'attendre à moins d'un jour de cheval de Castelserre. Quand nous arriverons au point de rendez-vous, ils se présenteront à leur tour, encapuchonnés afin de préserver leur identité. J'aimerais que tu les accompagnes quand ils se mettront en route. » Cela ne risque-t-il pas de paraître bizarre? Le garde du corps de Cire Dorée qui participe à une mission aussi délicate?
C'est exact, à un détail près. À ce moment-là, tu auras quitté le service de Cire Dorée pour t'enrôler dans la garde royale.
Vous ne trouvez pas ce changement de statut un peu soudain?
Quand l'avez-vous décidé, vieux renard que vous êtes? Et comment allons-nous l'expliquer?
Sans difficulté. Le capitaine Bonnefoire tient absolument à t'engager, car tu l'as fort impressionné en réussissant à tuer 3 hommes rien qu'en tentant de récupérer la bourse de ton maître. Un homme aussi efficace à l'épée aura toujours une place dans la garde royale. Si on te pose des questions, tu n'auras qu'à répondre qu'on t'offrait une solde alléchante et que Cire Dorée ne demandait qu'à gagner les faveurs royales en laissant la reine te débaucher. Peut-être se sent-il à présent assez à l'aise à la cour pour se passer de garde du corps.
La logique d'Imbre était imparable, mais je le soupçonnais de nourrir un autre dessein que celui de mieux me placer comme espion. Souhaitait-il m'éloigner de Cire Dorée de peur que celui-ci n'érode ma loyauté envers les loin-voyants? Je décidai de biaiser. Pourquoi tenez-vous tant à ce que j'entre dans la garde royale?
Eh bien, tout d'abord, cela me permettra d'expliquer beaucoup plus facilement ta présence auprès du prince lors de son voyage dans les îles d'outre-mer au printemps. Tu feras partie des heureux privilégiés à qui cet honneur sera échu. Mais surtout, les Vifiers ont exigé, en signe de bonne volonté de notre part, que le prince de Voir soit inclus dans leur escorte.
Mon esprit suivit aussitôt cette nouvelle direction. Êtes-vous sûr qu'il ne risque rien? Il pourrait s'agir d'un piège. Il eut un sourire sinistre.
Pourquoi crois-tu que je te veuille à ses côtés? Il peut s'agir d'un piège, c'est évident, mais les Vifiers entretiennent sans doute les mêmes inquiétudes à notre égard, non? C'est pourquoi ils demandent sa présence, sachant que nous n'exposerons jamais l'unique héritier loin-voyant au danger d'une embuscade.
Le lignage, dis-je. Vous devez vous habituer à parler du lignage, non des Vifiers. Vous allez donc l'envoyer les escorter? La mine sombre, il la voit.
Il n'a guère le choix. Et moi, pas davantage. La reine leur en a déjà donné sa parole.
À l'encontre de vos recommandations. Imbre eut un grognement dédaigneux.
La reine ne tient guère compte de mes avis ces temps-ci. Elle pense peut-être en avoir appris assez pour se passer de mes services de conseiller. Eh bien, nous verrons cela.
Je ne sus que répondre. À vrai dire, et bien que ma loyauté envers Imbre en fût un peu froissée, je me réjouissais secrètement que ma reine impose enfin son autorité. Les jours suivants furent si bien remplis et si empreints de tension qu'ils chassèrent presque de mon esprit mes inquiétudes pour le fou. Malgré ma santé encore fragile, Imbre, Lourd, Devoir et moi reprîmes nos séances matinales dans la tour du guet de la mer. Le fou n'y participait pas, et Imbre se gardait de tout commentaire. Étant donné ce que je lui avais rapporté, peut-être jugeait-il préférable qu'il restât hors de notre clan. Quant à moi, je ne mis jamais le sujet sur le tapis. Nous nous réunissions tous les quatre et poursuivions notre étude de l'art avec une avidité qui m'effrayait et enthousiasmait les autres. Nous accomplissions des progrès, prudents et maîtrisés, qui ne satisfaisaient que moi. Lourd apprit à contenir sa musique, bien que cela parût lui causer une angoisse qu'il ne parvenait pas à expliquer. Devoir sut bientôt mieux diriger ses messages sur un destinataire précis. Imbre, comme c'était à prévoir, restait à leur traîne. Si nos mains se touchaient, il était capable d'établir un vague contact avec mon esprit, et moi avec le sien. Même lorsque Lourd lâchait sur lui un raz-de-marée d'art, il ne le percevait qu'à peine. et n'en captait pas le sens. Pour devoir, il se révélait indétectable, à moins que ce ne fût l'inverse. Dans l'impossibilité de trancher, nous travaillions sur les deux éventualités. Ces matinées me laissaient épuisé, physiquement et nerveusement, et je souffrais encore de migraines, en rien comparable, par bonheur, à celles dont j'étais affligé autrefois. Obéissant aux ordres stricts d'Imbre, je prenais chaque jour un déjeuner solide et reconstituant. J'étais devenu son maître d'art, mais il demeurait mon mentor et restait convaincu de savoir mieux que moi ce qui était bon pour ma santé. C'est à cette époque qu'il me prit à partie à propos de l'écorce elfique et du carim qu'il avait découvert dans ma chambre et confisqué alors que je me remettais de ma guérison. Notre dispute fut âpre et nous laissa tous deux mal à l'aise. Il soutenait que mon devoir m'interdisait de risquer de dégrader, voire de tarir mon art. Dès lors, surtout, que je remplissais le rôle de maître d'art du prince et de son clan, à quoi je rétorquais que mes possessions ne regardaient que moi et que nul n'avait le droit d'y fourrer son nez. Chacun refusant de céder ou de s'excuser, nous décidâmes, par accord tacite, d'éviter le sujet à l'avenir. Sire Doré m'avait donné mon congé peu après qu'Imbre m'avait annoncé mon changement de statut. On me proposa d'entrer chez les gardes royaux et j'acceptai avec empressement. Les hommes m'accueillirent avec une équanimité qui m'étonna. À l'évidence, je n'étais pas le premier qu'Imbre introduisait dans leur rang, et je me demandais combien d'entre eux dissimulaient plus qu'un simple soldat. Ils me posèrent peu de questions et préférèrent mesurer ma compétence lors de leurs exercices et de leurs manœuvres habituelles. Tous les débuts d'après-midi, je m'entraînais avec eux sur les terrains prévus à cet effet, et mes multiples bleus témoignèrent rapidement de mon manque d'efficacité. Je disposais d'un lit de camp dans les baraquements, mais je dormais la plupart du temps dans ma salle de travail. Si certains s'interrogèrent sur l'étrange absence de rigueur de mon intégration dans la garde royale, ils se turent. Lorsque j'affrontais un jour Wim, il me félicita ensuite d'avoir retrouvé le niveau d'un honnête combattant. En matière vestimentaire, je repris l'uniforme bleu des gardes de serre, avec une tunique blanc et violet pour les jours où je devais montrer mon allégeance à la reine. Et j'éprouvais un plaisir immodéré à arborer son blason au renard sur la poitrine. Il répondait à l'épingle au même motif piqué à l'intérieur de ma chemise, sur mon cœur. J'avais l'impression de me fatiguer plus vite et de me rétablir beaucoup plus lentement que jamais auparavant. Mais malgré les encouragements d'Imbre, je me refusais à employer l'art pour accélérer ma convalescence. En fin d'après-midi, tandis que le conseiller de la reine s'occupait des affaires diplomatiques, l'ours pillait les cuisines et nous nous gorgions ensuite de pâtisseries onctueuses et de viandes dégoulinantes de graisse. Nous découvrîmes à cette occasion que Girofle portait aux raisins secs la même adoration que l'ours, qui pleurait de rire devant le balai suppliant qu'exécutait la petite bête pour en obtenir quelques grains. Nous commençâmes à nous étouffer, le petit homme plus sans doute qu'il n'était bon pour lui. Il devint aussi rondouillard que le chien de manchon d'une noble dame, le cheveu aussi luisant que le poil du bichon. Le couvert assuré, rassasié de bons soins et se sentant bien accueilli, il manifestait parfois une nature placide et affable, et je savourais les heures simples que nous passions ensemble. Je parvins même à obtenir plusieurs soirées en compagnie d'heures. Nous ne nous rendîmes pas au port coincé, mais dans un débit de bière tranquille et relativement récent, à l'enseigne du pirate rouge naufragé. La cuisine était peu chère et sentait le graillon, mais nous pouvions bavarder comme les vieux amis que nous devenions. Ces moments me rappelèrent les jours que j'avais vécu avec Burick, peu avant que Royal ne me tue. Nous nous voyions mutuellement comme des hommes désormais. Un soir, parmi les plus agréables, il me régala d'un long récit sur le jour où Astérie était entrée majestueusement dans l'atelier, avait ébloui Maître Guindast de son charme et de sa renommée, puis entraîné Heure pour la journée dans la visite de son bourg de Castelserre. « C'était très bizarre, Tom, » déclara-t-il d'un ton encore perplexe. « On aurait cru qu'il n'y avait jamais eu ni querelle ni froid entre nous. Quelle attitude pouvais-je adopter, sinon celle de l'imiter ? Crois-tu qu'elle a vraiment oublié ce qu'elle m'a dit ?»«
Ça m'étonnerait, » répondis-je, songeur. Une ménestrelle sans mémoire meurt de faim rapidement. Non. Connaissant notre Astérie, elle pense, à mon avis, qu'elle parviendra à modifier la réalité si elle joue la comédie de façon assez convaincante. tu as pu constater toi-même que c'est parfois efficace. Cela veut-il dire que tu lui as pardonné ? Il resta un moment interdit, puis il me demanda avec un sourire mi-figue mi-raisin, « S'en rendrait-elle compte si ce n'était pas le cas ?» Elle a réussi à faire croire à Guindast que j'étais son fils, ou peu s'en fallait, avec tant de virtuosité que j'en étais moi-même à demi convaincu. Je ne pus m'empêcher d'éclater de rire en haussant les épaules. Astérie l'avait emmenée dans une taverne fréquentée par des ménestrels itinérants et présentée à plusieurs jeunes musiciennes qui l'avaient gavée de petits gâteaux fourrés et abreuvée de bière et de chansons en se disputant son attention. Narquois, je le mis aussitôt en garde contre les mœurs relâchées et le cœur de pierre des membres de cette confrérie. Ce fut une erreur. Nulle femme ne pourra prendre mon cœur. Il est anéanti, répondit-il gravement. Néanmoins, d'après les descriptions qu'il me fit de plusieurs jeunes filles, il me parut que si son cœur avait disparu, il avait bel et bien conservé l'usage de ses yeux. En mon fort intérieur, je remerciai Astérie et formai le vœu que mon garçon se remît vite de sa peine. Le fou, comme cire dorée, s'appliquait à m'éviter. À plusieurs reprises, descendant le soir de la salle de travail et pénétrant chez cire dorée par mon ancienne chambre, je trouvais ses appartements déserts. Devoir m'apprit qu'il s'adonnait à présent au jeu de hasard à Bourg de Castelserre, où ses divertissements gagnaient en popularité, aussi souvent qu'au château, lors de parties privées. Il me manquait, mais je redoutais aussi de le rencontrer. Je ne voulais pas qu'il lût ma trahison dans mes yeux. Je me répétais que j'avais agi pour son bien, et tant pis pour les dragons. Si l'empêcher d'approcher d'Aslevial me permettait de lui sauver la vie, encourir son déplaisir était un prix bien mince à payer. Voilà les pensées qui me traversaient lorsque je me laissais aller à croire à ces folles prophéties. Le reste du temps, je tenais l'histoire du dragon prisonnier des glaces et de la femme pâle pour une simple fable, ce qui lui retirait donc tout motif de se rendre sur Aslevial. Je justifiais ainsi de comploter avec Imbre contre lui. Quant à la raison qui le poussait à m'éviter, je soupçonnais qu'elle provenait de quelque étrange sentiment de honte à mon égard, maintenant que je connaissais l'existence de ses tatouages. Je ne pouvais pas plus exiger sa compagnie que lui imposer la mienne. Je n'avais qu'à espérer que, le temps aidant, l'abîme déjà clos à demi entre nous se refermerait complètement. Et les jours s'écoulaient ainsi. Jamais je ne l'aurais avoué, mais c'était la crainte nouvelle que m'inspirait la quête du prince sur l'île d'Astévial qui sous-tendait mon ardeur accrue à lui enseigner l'art. Le délai qui nous séparait de notre départ au printemps me paraissait toujours court. Je partageais l'avis d'Imbre qu'il fallait un clan à devoir, dont les membres connussent au moins les rudiments du fonctionnement de la magie. Aussi m'appliquais-je à développer le talent particulier de chacun, avec des degrés de bonheur différents. Les capacités d'Imbre croissaient lentement durant nos séances matinales, ce qui le mécontentait fort et contrariait sa concentration. J'avais beau l'exhorter à se calmer et à faire le vide dans son esprit, je ne parvenais pas à obtenir qu'il se détende. Devoir paraissait se divertir fort de mes démêlés avec mon élève chenu, tandis qu'ils ennuyaient profondément Lourd, et ces deux attitudes ne concouraient pas à rendre Imbre plus aimable avec moi. Celui qui avait été un professeur doux et patient se révélait un étudiant épouvantable, têtu et rebelle. Je réussis finalement à l'ouvrir à la magie après 4 jours d'efforts acharnés, et dès qu'il perçut le fleuve d'art, il s'y précipita la tête la première. Je n'avais pas le choix. Je devais le suivre. Interdisant formellement à Devoir et à Lourd de m'imiter, je plongeai dans le courant d'art. Je n'aime pas me remémorer cet incident. Imbre se dévidait comme une bobine, mais une bobine composée d'innombrables fils, et tous les instants de ses longues années d'existence paraissaient jaillir dans des directions différentes. Après m'être évertué un long moment à le rassembler, je compris que ce n'était pas l'art qui le réduisait en lambeaux, mais le vieil homme lui-même qui émettait des extensions inquisitrices en tous sens. Semblable aux racines d'une plante assoiffée, il s'étendait de plus en plus loin sans prendre garde à l'art qui effilochait et emportait ses filaments. Alors même que je le rattrapais par petits bouts, il s'extasiait de sa capacité de contact démesuré. Pour finir, je l'arrachais au flot tumultueux grâce à un sursaut d'énergie que je puisais autant dans ma magie que dans ma violente colère, et quand nous regagnâmes nos corps respectifs, Je me découvris sous la grande table, agité de tremblements et de tressaillements, au bord de la convulsion.
« Espèce de vieille bourrique stupide !»
fis-je entre deux hoquets. Je n'avais plus la force de crier. Humbre gisait avachi dans son fauteuil. Ses paupières papillotèrent. Il reprit vaguement conscience et ne trouva rien de mieux à dire que
« Magnifique, magnifique !»
Puis sa tête tomba sur la table et il sombra dans un sommeil léthargique dont rien ne put le tirer. Devoir et Lourd me soulevèrent et me déposèrent dans mon siège. Le prince me remplit ensuite à ras-bord un verre de vin d'une main tremblante, tandis que Lourd me regardait fixement, les yeux écarquillés. Je bus la moitié du verre, et le jeune garçon déclara d'un ton déconcerté.
« Je n'ai jamais rien vu d'aussi effrayant. Est-ce ce qui s'est produit quand vous vous êtes lancé à ma recherche ?»
Encore sous le choc et trop furieux contre Humbre et moi-même, je ne pus avouer que je n'en savais rien.
« Que cela vous serve de leçon à tous les deux aussi, »
dis-je avec sévérité. « Celui d'entre nous qui se risque dans ce genre d'aventure insensée nous met tous en danger. Je comprends maintenant pourquoi les maîtres d'art de jadis dressaient parfois une barrière de douleur entre l'art et un élève entêté. » Le prince eut l'air abasourdi. «
Vous n'imposeriez pas un tel blocage à Sire Humbre tout de même ?»
Il n'aurait pas paru plus choqué si j'avais proposé de mettre la reine au fer pour son propre bien.
« Non. »
répondis-je à contre-cœur. Je me levai, et les jambes flageolantes fit le tour de la table. Je secouai l'épaule du vieil homme, d'abord doucement, puis plus rudement. Il entr'ouvrit les yeux, et me sourit sans décoller la tête du plateau de bois.
« Ah, te voici, mon garçon !»
Son sourire béat s'élargit.
« M'as-tu vu ? M'as-tu vu voler ?»
J'ignore si ses yeux se révulsèrent, ou si ses paupières se fermèrent, mais il perdit conscience à nouveau, épuisé comme un enfant après une journée à la foire. J'étais atterré. Il ne paraissait nullement mesurer à quel point nous avions frôlé de près la catastrophe. Il ne se réveilla qu'une heure plus tard, et alors, malgré toutes ses excuses, son œil brillait d'une lueur qui me laissait craindre le pire. Même après qu'il m'eût promis de ne tenter aucune expérience irréfléchie, je demandai discrètement à Lourd de m'avertir aussitôt s'il sentait amartisé. Le petit homme acquiesça gravement, ce qui ne me rassura guère. Son esprit ne gardait pas longtemps la trace de ce genre d'engagement. La séance du lendemain ne devait pas me tranquilliser davantage. Après avoir exhorté Humbre à rester spectateur et à observer le cours avec attention, je m'efforçais d'apprendre à devoir, à emprunter l'énergie de Lourd pour augmenter la puissance de son art. Tous trois avaient vécu, lors de ma guérison, la fusion de leurs forces et ce dont cette union était capable. Mais aucun ne savait expliquer comment il y avait puisé, ni ce qui s'était passé. Il me semblait que le prince, tout au moins, devait être en mesure de se brancher à volonté sur l'énergie de Lourd, et dans ce but, je l'ordonnais à effectuer un exercice simple. C'est ce que je croyais, en tout cas. Par ses propres moyens, Devoir ne parvenait à se faire entendre d'Humbre que sous la forme d'un murmure inaudible. Le vieil assassin captait ses efforts, mais non le message qui lui était adressé. J'ignorais si Humbre était encore trop fermé à l'art ou si le prince n'arrivait pas à concentrer suffisamment sa volonté sur lui. Et je désirais voir si, en puisant dans l'énergie de Lourd, il réussirait à se rendre plus perceptible à Humbre. Le prince Vérité m'a dit qu'on nommait le membre d'un clan, ou un solitaire ainsi employé, le servant du roi. Donc Lourd jouera le rôle de servant du roi auprès de Devoir. « Voulez-vous essayer ? » demandai-je.
« C'est un prince, pas un roi, »
fit le simple d'esprit d'un air soucieux. « En effet, et alors ?»«
Alors je ne peux pas faire le servant du roi, ça ne marchera pas. »
Je contins mon impatience. « Ce n'est pas grave, Lourd, ça marchera. » Tu feras le servant du prince.
Servant ? Comme un serviteur ?
Il s'était aussitôt hérissé. Non, tu l'aideras comme un ami. Lourd aidera Devoir comme servant du prince. On essaye ? Devoir, amusé par la scène, arborait un large sourire où ne perçait nulle moquerie envers son servant. Lourd se tourna vers lui, sourit à son tour et se posta aux côtés du prince. « Ça ne devrait pas vous poser de difficultés, » déclarai-je, sans savoir si je mentais ou non. « L'our va s'ouvrir à l'art, mais sans tenter d'artiser. Devoir puisera dans son énergie et s'efforcera de se faire entendre d'imbre. Devoir, procéder lentement, et si je vous ordonne d'arrêter, rompez le contact aussitôt. Allez-y. » Je pensais avoir prévu toutes les éventualités. J'avais apporté des douceurs, comme celles qu'adorait l'our, de l'eau de vie si jamais nous avions besoin d'un cordial, et j'avais posé le tout sur la table. Je commençais à me demander si cela n'avait pas été une erreur, car le regard de l'our revenait sans cesse sur des petits pains à la groseille. N'allait-il pas le distraire de sa tâche? J'avais voulu me munir également d'écorce elfique et tenir prête une bouilloire d'eau chaude, mais Imbre s'y était opposé.
« Mieux vaut que le clan du prince n'ait jamais affaire à un produit aussi néfaste !»
avait-il déclaré d'un ton vertueux. Je m'étais retenu de lui rappeler que c'était lui qui m'en avait enseigné l'usage. Tendu, je passais derrière le prince et le regardais approcher la main de l'our. S'il me paraissait qu'il tirait exagérément sur les réserves du petit homme, j'étais préparé à briser physiquement le lien entre eux. J'étais bien placé pour savoir qu'un artiseur peut tuer de cette façon, et je ne voulais pas d'accident. La main du prince reposait sur l'épaule de l'our. J'attendis un moment, puis adressai un regard interrogateur à Imbre, auquel il répondit en haussant les sourcils. « Allez-y, » ordonnai-je à mes deux élèves.
« J'essaie, »
affirma Devoir d'un ton irrité. « J'arrive à contacter l'our, mais je ne sais pas comment prendre son énergie, ni l'utiliser. L'our, peux-tu l'aider ?» L'intéressé ouvrit les yeux et me regarda.
« Comment ?»
Je n'en avais aucune idée. « Ouvre-toi à lui. Concentre-toi sur la force que tu veux lui transmettre. » Ils se remirent en position. Je surveillais l'expression d'Imbre dans l'espoir d'y lire le signe que Devoir avait touché son esprit. Mais le prince se tourna bientôt vers moi avec un petit sourire. « Il martise. Force, force, force. »
C'est ce qu'il m'a dit de faire !»
protesta le petit homme avec colère. « C'est exact, » fis-je d'un ton conciliant. « Calme-toi, l'our. Personne ne se moque de toi. » Il me regarda d'un air mauvais, la respiration pesante.
« Pue le chien !»
Devoir sursauta. Un tressaillement agita les lèvres d'Imbre, mais il contint son sourire.
« Pue le chien ! C'est bien le message que vous vouliez me transmettre ?»
« Je crois qu'il m'était adressé en réalité, » répondis-je d'un ton circonspect.
« Mais il a transité par moi, et il est parvenu à ma cible, c'est-à-dire Imbre !»
s'exclama Devoir, exultant. « Bon, eh bien au moins nous progressons, » dis-je.
« Je peux prendre un petit pain maintenant ?»«
Non, l'our, pas tout de suite. Nous avons encore du travail. » Je réfléchis un moment. Devoir avait réorienté l'art de l'our. Fallait-il comprendre qu'il avait puisé dans son énergie pour se faire entendre d'Imbre, ou bien qu'il avait simplement détourné sur le vieil homme le message qui m'était destiné? Je l'ignorais, et je ne pensais pas possible d'acquérir une certitude absolue. « Essayez ensemble, » dis-je, « et forcez-vous tous les deux d'envoyer le même message à Imbre, et rien qu'à Imbre. Tâchez de concerter votre effort. »«
Concerter ?»«
Travaillez ensemble. » expliqua Devoir à l'attention de l'our. Ils conférèrent un instant en silence, sans doute pour choisir un message. « Allez-y, » fis-je en observant le visage d'Imbre. Il fronça les sourcils.
« Il est question d'un petit pain, non ?»
Le prince poussa un soupir exaspéré.
« Oui, mais ce n'est pas ce qui était prévu. L'our a un peu de mal à se concentrer.
« J'ai faim. »
« Non, tu es gourmand, c'est tout !»
répliqua Devoir. L'our se mit aussitôt à bouder, et ni l'autorité, ni la persuasion ne parvinrent à le convaincre de reprendre le travail. Nous finîmes par le laisser se goinfrer, et décidâmes d'en tirer la leçon pour le lendemain. Hélas, le sort ne nous sourit pas davantage lors de la séance suivante. Le printemps était dans l'air. J'avais ouvert les volets sur l'aube. Le soleil restait encore une promesse à l'horizon, mais dans le vent du large, frais et vif, on sentait une note de renaissance et de saison nouvelle. Je m'en imprégnais à longues inspirations en attendant mes élèves. Mes machinations contre Sire Doré me tourmentaient toujours, et j'en venais à regretter d'avoir rapporté notre conversation à Ambre et de lui avoir parlé des tatouages du fou. Assurément, s'il avait souhaité que le vieil assassin en connût l'existence, il les aurait évoqués lors de son entretien avec lui à propos de ceux de l'Anarchesca. Le sentiment tenace et profond d'avoir pris la mauvaise décision me tenaillait. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière, et l'idée de tout lui avouer était inconcevable. La seule qui m'épouvanta davantage, peut-être, était de le laisser se rendre sur Aslevial, s'il croyait devoir y trouver la mort. Aussi, même si cela paraît puéril, j'avais résolu de me taire, tout simplement, et d'abandonner l'affaire à Ambre. C'est lui qui interdirait à Sire Doré de nous accompagner. Je pris une grande bouffée d'air printanier en espérant me ragaillardir. Mes angoisses s'en virent seulement accrues. Civil Brezinga était revenu à Castelser. Officiellement, la présence d'une escorte pendant son voyage exprimait les condoléances des loin-voyants pour le deuil qui le frappait. Mais il savait, même si d'autres l'ignoraient, que des années de surveillance l'attendaient au château de Serres, où il demeurerait jusqu'à sa majorité, tandis que la couronne assurerait, avec mansuétude, l'entretien de son fief. Seul restait à Castelmyrte un personnel réduit fourni par la reine. La sanction me paraissait bien légère au vu de sa félonie. On avait gardé secret son don du vif. Je supposais que l'on conservait en réserve la menace de le révéler pour le décourager de nouveaux méfaits. Nul rapprochement n'avait été opéré entre l'assassinat de trois hommes à bourg de Castelser et lui, et je bouillais de colère à l'idée qu'il se tirât si aisément d'avoir exposé mon prince à un si grand péril. D'après ce que m'avait rapporté Ambre, Devoir soutenait que Civil avait transmis très peu de renseignements sur lui au Pie, la plupart accessibles, même à la plus petite domesticité du château. Cela ne me rassurait nullement, et j'éprouvais une inquiétude plus grande encore à savoir que non seulement Lodevin, mais aussi Paget, avaient manifesté un vif intérêt pour toutes les informations que Civil pouvait glaner sur Sire Doré et moi. Étant donné le peu qu'ils savaient, ils n'avaient pas pu leur dire grand-chose. Toutefois, il avait avoué au prince que leur curiosité avait éveillé la sienne. Je l'avais espionné dans ses appartements peu après son retour, et j'avais vu un jeune homme anéanti et accablé de chagrin. Un seul domestique de sa famille restait avec lui à Castelser. Civil n'était plus qu'un adolescent réduit à ses dernières possessions, dépouillé de parents et de foyers, et sa bête de vif demeurait consignée aux écuries. La modestie du logement et du mobilier qu'on lui offrait convenait à un oubliot, mais il avait sans doute joui d'un luxe bien supérieur chez lui. Il avait passé une bonne partie de la soirée assis, à regarder fixement le feu dans sa cheminée. J'avais cru tout d'abord qu'il communiait avec son marguet, mais je n'avais détecté aucun flux de vif entre eux. En revanche, j'avais perçu son abattement comme un miasme presque palpable dans la pièce. Pourtant, je ne lui faisais pas confiance. Je contemplais encore la vue par la fenêtre quand j'entendis les pas du prince dans l'escalier. Il entra peu à peu et ferma la porte derrière lui. Ambre et Lourd ne tarderaient pas, arrivant par le passage dérobé, mais je disposais de quelques instants pour m'entretenir avec lui en privé. Sans me retourner, je lui demandai « Le marguet de Civil communique-t-il avec vous ?»«
Par ? » ?»«
Non. » En tant que félin, il en serait capable, naturellement, s'il le désirait, mais cela aurait quelque chose de grossier, il me semble. Il prit un air songeur. C'est curieux quand j'y songe. Parmi ceux du lignage qui préfèrent ces animaux, on retrouve souvent des coutumes particulières. Par exemple, je n'oserais jamais entamer de ma propre initiative une conversation avec le marguet ou le chat de lien de quelqu'un d'autre. Ce serait comme compter Fleurette à sa promise. Je connais Par depuis un certain temps maintenant, mais jamais il n'a manifesté qu'il eût envie de me parler. Certes, le fameux jour où Civil s'est trouvé en danger, il m'en a averti, mais cela ressemblait plutôt à une menace. Civil me l'avait apporté dans un grand sac de toile. Si j'ai bien compris ce qu'il m'a expliqué, il a réussi à l'y faire entrer en profitant d'une bagarre pour rire à laquelle il se livrait. Puis il a fermé le sac et l'a traîné jusqu'à mes appartements. Et quand je dis traîner, c'est le terme exact. Par n'est pas un petit marguet. Il poussa tout à coup un soupir. Ce seul détail aurait dû me mettre la puce à l'oreille.
Il fallait qu'il soit complètement affolé pour traiter part avec un tel manque d'égard. Mais il paraissait si angoissé et si pressé que j'ai accepté de garder son marguet dans ma chambre jusqu'à son retour, sans avoir le temps de l'interroger. Mais après son départ, j'ai dû supporter les grondements et les gémissements pitoyables de part. Il s'efforçait de déchirer la toile à l'aide des griffes de ses pattes de derrière, mais Civil avait pris soin de choisir un sac très résistant. Au bout d'un moment, il a cessé de s'agiter, et il est resté couché, à bout de souffle, et j'ai commencé à craindre qu'il ne suffoque. On l'aurait dit tout près de tomber en faiblesse. Mais, à l'instant où j'ai ouvert le sac, il a jailli brutalement et m'a jeté à terre. Ses crocs m'ont saisi ici. Les doigts de devoir se refermèrent de part et d'autre de sa trachée, et ses griffes postérieures se sont plantées dans mon ventre. Il a juré qu'il me tuerait si je ne le laissais pas sortir de ma chambre. Puis, avant que j'aie le temps de réagir, il a poussé un grand miaulement et m'a labouré la poitrine. Civil venait de se faire attaquer. Il a dit que c'était ma faute et qu'il me mettrait en pièces si je ne le sauvais pas. C'est alors que je vous ai artisé.
Il m'avait rejoint devant la fenêtre et regardait la mer scintiller sous le soleil levant qui tentait d'allumer des couleurs dans le creux ténébreux des vagues. Il se tut et se perdit dans sa contemplation. Je le relançai. Que s'est-il passé ensuite ?
Hein ? Ah, je crois que je me suis demandé ce qui vous arrivait alors. Pourquoi ne m'avez-vous pas artisé ? Pensez-vous que je ne vous aurais pas envoyé de secours ?
Sa question me prit au dépourvu, et il me fallut un moment pour déceler la réponse au fond de moi. J'eus un petit rire. Si, sûrement, si j'y avais songé. Mais pendant des années, nous n'avons compté que l'un sur l'autre, le loup et moi. Et quand j'ai perdu œil de nuit, l'idée ne m'a même pas effleuré que je pouvais vous appeler à l'aide, ni même vous dire où je me trouvais. Ça ne m'a pas traversé l'esprit.
J'ai tenté de vous contacter quand ils ont commencé à étrangler Civil. Son marguet est devenu comme fou. Il a bondi de ma poitrine et s'est mis à courir à travers la pièce en détruisant tout sur son passage. Je n'imaginais pas qu'il pût provoquer autant de dégâts avec ses seules griffes. Les tentures du dit, les habits. J'ai encore une tapisserie roulée sous mon lit, dans un tel état que je n'ai osé en parler à personne. Elle avait une valeur inestimable, je le crains, mais elle est bonne à jeter.
Ne vous en faites pas. J'en ai une de trop, je vous la donnerai. Mon sourire de côté le laissa manifestement perplexe.
J'ai essayé de vous artiser, tandis que par saccager ma chambre, mais je n'ai pas réussi à vous contacter.
Un vieux souvenir me revint soudain. Votre père se plaignait du même problème autrefois. Quand je m'engageais dans un combat, j'étais incapable de maintenir un lien d'art avec lui, et de son côté, il ne parvenait plus à me joindre. Je haussai les épaules. Je l'avais oublié. Par réflexe, je tâtai du doigt la cicatrice de morsure à la jonction de mon cou et de mon épaule, puis je me rendis compte que Devoir me regardait à nouveau avec adulation, et je baissai rapidement la main. « Et c'est la seule fois où Par s'est adressé à vous ?» Il se ressaisit.
Presque. Il s'est arrêté brusquement de mettre mes affaires en pièces, et il m'a remercié avec beaucoup de raideur. Je crois qu'un félin a toujours du mal à dire merci. Ensuite, il est monté sur mon lit, s'est installé en plein milieu, et s'est désintéressé de moi. Il est resté là jusqu'au moment où Civil est venu le reprendre. Ma chambre en peste depuis. J'ai l'impression que Par marque son territoire quand il se bat.
Le peu que je connaissais des chats corroborait cette idée. Je le lui dis, puis en marchant sur des œufs, car le sujet était sensible, je lui demandai. Devoir, pourquoi conservez-vous votre confiance à Civil ? Je ne conçois pas que vous continuiez à le fréquenter après ce qu'il a fait. Il me regarda d'un air étonné.
Il a confiance en moi ? Je crois que personne ne pourrait me vouer une telle confiance sans que je la lui retourne. Par ailleurs, j'ai besoin de lui si je veux comprendre les gens du lignage qui habitent mon royaume. C'est ma mère qui me l'a enseigné. Je dois bien connaître un de leurs membres au moins si nous désirons être capables de traiter avec eux.
Je n'y avais pas songé. Pourtant, c'était évident. Le mode de vie du lignage représentait une culture à l'intérieur de celle des six duchés. J'en avais eu un aperçu, mais je n'aurais su l'expliquer à Devoir aussi bien qu'une personne qui y aurait baigné toute sa vie. J'insistais néanmoins. On doit pouvoir trouver quelqu'un d'autre qui soit en mesure de vous servir ainsi. Je ne vois toujours pas en quoi Civil mérite votre estime. Il poussa un petit soupir.
Fitz-Chevalerie, il m'a remis son marguet. Si vous aviez su que vous alliez au-devant d'une mort certaine et que vous ayez voulu empêcher Œil de Nuit de périr avec vous, où l'auriez-vous laissé? À qui l'auriez-vous confié? À quelqu'un que vous auriez trahi de votre propre chef ou à un ami capable de voir au-delà des apparences?
Non. Fis-je une fois que je me fus pénétré de sa question.
Oui, je vois.
Vous avez raison.
Nul n'abandonnerait la moitié de son âme à une personne qu'il ne respecterait pas. Peu après, Humbre et Lou rentrèrent par le panneau de la cheminée. L'air mécontent, le vieil homme agitait ses manches à dentelle pour les débarrasser de toiles d'araignée qui s'y étaient accrochées. L'ours fredonnait des notes éparses qui comblaient les silences d'une mélodie d'art adressée au matin. Et il paraissait y prendre grand plaisir. Si je l'écoutais par mes seules oreilles, j'avais l'impression qu'il n'émettait que des sons dépourvus de lien entre eux, et agaçants. Mais comme ma compréhension changeait quand j'accédais directement à son esprit. Dès son entrée, il porta le regard vers la table, et je sentis sa déception en constatant l'absence de pâtisserie. Avec un soupir, j'espérais que sa désillusion n'affecterait pas notre travail du jour. Je disposais mes élèves comme la veille, Humbre d'un côté, Devoir et Lourd côte à côte en face de lui. Je repris place derrière le couple, prêt à intervenir physiquement si nécessaire. Devoir, je le savais, considérait que je dramatisais les risques, et même Humbre paraissait juger ma prudence exagérée, mais ni l'un ni l'autre n'avait failli mourir vidé de son énergie par un autre artiseur. Le prince posa de nouveau la main sur l'épaule de Lourd, et, encore une fois, il tenta de transmettre un message simple à Humbre, en vain. Séparément, Devoir et Lourd me contactaient sans mal, mais ils ne parvenaient à rien ensemble. Je commençais à désespérer. Une des tâches fondamentales d'un clan consistait à fondre l'art de chacun de ses membres en un tout à la disposition de son roi. Or, nous n'en étions même pas capables. Nos échecs répétés mettaient nos nerfs à vif.
« Lourd, arrête de chanter ! Comment veux-tu que je me concentre avec cette musique de fond ?»
fit sèchement Devoir, après un essai sans plus de résultats que les précédents. Le petit homme tressaillit, et comme ses yeux s'emplissaient de larmes, je mesurais la force du lien qui le rattachait au prince. Devoir prit sans doute conscience de son erreur, car il secoua aussitôt la tête et dit
« C'est la beauté de ta musique qui me distrait, Lourd. Je comprends très bien que tu veuilles en faire profiter tout le monde, mais pour le moment, il faut nous concentrer sur la leçon, d'accord ?»
Des éclavaires scintillèrent soudain dans les yeux d'Humbre.
« Non !» s'exclama-t-il. « Non, Lourd, n'arrête pas. Devoir et Tom m'ont souvent parlé de ta merveilleuse musique, mais je ne l'ai jamais entendue. Fais-la-moi écouter, Lourd, rien qu'une fois. Mets la main sur l'épaule de Devoir et transmets-moi ta musique, je t'en prie. »
Le prince et moi restâmes pantois, mais Lourd eut un sourire radieux. Il n'hésita pas. Il saisit le bras de son voisin, à peine celui-ci eut-il retiré sa main. Les yeux fixés sur Humbre, béant de ravissement, il ne laissa pas le temps à Devoir de se concentrer. La musique nous envahit comme un raz-de-marée. J'aperçus Humbre qui vacillait sous l'impact. Ses yeux s'arrondirent, et bien qu'une expression de triomphe se répandît sur ses traits, j'y lus aussi un soupçon de frayeur. Je n'avais pas sous-estimé la puissance de Lourd. Jamais je n'avais été témoin de pareil déferlement d'art. Jusque-là, sa musique était restée à l'arrière-plan de ses pensées, processus aussi inconscient que sa respiration ou les battements de son cœur. À présent, il s'ouvrait grand au monde dans l'allégresse de la chanson de sa mère. Comme le flot limoneux d'une rivière en crue modifie la couleur de la baie tout entière où elle se jette, la mélodie de Lourd teintait le vaste courant de l'art. Elle s'y insérait et le changeait. Cela défiait l'imagination. Envoûté par la musique, je me trouvais incapable de commander à mon propre corps. L'irrésistible fascination qu'exerçait la chanson de Lourd m'entraînait et me liait à son rythme et son harmonie. Je sentais que Devoir et Humbre y avaient été aspirés comme moi, mais la musique captait toute mon attention et m'empêchait de les voir. Nous n'étions pas les seuls dans cette situation. Je percevais d'autres présences dans la cataracte chatoyante, certaines sous la forme de simples filaments, minces volutes de magie échappées à ceux qui possédaient un embryon d'art. Quelque part, peut-être, un pêcheur s'étonnait-il de l'air inattendu qui avait surgi au fond de son esprit,
ou bien la berceuse que fredonnait une mère avait pris une tournure nouvelle. D'autres se voyaient davantage emportés. Je sentis des gens s'interrompre dans leur activité et jeter des regards autour d'eux à la recherche de la source de la musique murmurante. Ils n'étaient guère nombreux, mais chez certains, la conscience de l'art faisait partie de leur vie. Chuchotis de voix étouffées, auxquelles ils avaient appris à ne pas prêter attention. Ce déluge de musique abattait toutes leurs barrières habituelles, et ils se tournaient vers nous. Quelques-uns poussèrent sans doute un cri de saisissement, d'autres tombèrent peut-être comme des masses. Je n'entendis qu'une seule voix, claire et sans peur.
« Que se passe-t-il ? »
s'exclama Orti.
« D'où vient ce rêve éveillé ?»«
De Castelserre, » répondit Imbre d'un ton joyeux. « Cet appel vient de Castelserre. Ô vous qui possédez l'art, ouvrez les yeux et rendez-vous à Castelserre afin de déployer votre magie et servir votre prince. »«
À Castelserre ?»
répéta Orti. Puis, telle une trompe lointaine, une grande voix intervint.
« Je te connais à présent. Je te vois. »
Rien d'autre, peut-être, n'aurait pu briser les chaînes de ma fascination. Je séparai de voir de lourd avec une violence qui nous laissa tous les trois abasourdis, et la musique fit place à un silence fracassant. L'espace d'un instant, l'absence de larmes laissa sourd et aveugle. Mon cœur aspirait à le retrouver, tant était plus pure que celle de nos pitoyables sens, la relation qu'il établissait avec le monde. Mais je recouvrai bientôt mes esprits, et tendis la main à Devoir que ma brutale poussée avait projeté au sol. L'air égaré, il la saisit et se releva en me demandant.
« Avez-vous perçu la voix de cette fille ? Qui est-ce ? »
« Bah, c'est celle qui pleure tout le temps !»
dit Lourd d'un ton désinvolte, et je lui suis gré d'avoir parlé à ma place. Il s'adressa à Imbre d'un ton avide.
« Vous avez entendu ma musique ? Elle vous a plu ?»
Le vieillard ne répondit pas tout de suite. Je me tournai vers lui. Il était avachi dans son fauteuil, un sourire benêt aux lèvres, mais le fond plissé.
« Oh oui, Lourd, je l'ai entendu, » fit-il enfin, « et elle m'a beaucoup plu. »
Il s'accouda sur la table et appuya son menton sur ses paumes.
« Nous avons réussi, »
poursuivit-il dans un souffle. Il leva les yeux vers moi.
« Est-ce toujours ainsi ? Éprouve-t-on toujours cette exaltation, cette sensation d'être enfin complet, achevé, de ne plus faire qu'un avec le monde ?»
C'est un aspect dont il faut se méfier, l'avertis-je aussitôt. Si vous accédez à l'art en quête de ce sentiment d'union, il risque de vous emporter. L'artiseur doit toujours garder son objectif en point de mire, sinon il peut se laisser entraîner et se perdre. Imbre m'interrompit avec impatience.
« Oui, oui, je n'ai pas oublié ce qui m'est arrivé la dernière fois, mais je pense quand même qu'il faut fêter l'événement. »
Les autres paraissaient partager son enthousiasme, et devant mon silence, ils me jugèrent sans doute rabat-joie et ronchon. Je tirai néanmoins de sous la table le panier couvert d'un linge que j'y avais dissimulé, et même Lourd y trouva son bonheur. J'offris une tournée d'eau-de-vie, bien qu'à mon avis, Imbre fut le seul qui eut vraiment besoin d'un cordial. Les mains du vieil homme tremblaient, mais il sourit toutefois et leva son verre avant de le porter à sa bouche.
« À tous ceux qui viendront peut-être former un véritable clan pour le prince Devoir. »
Il ne me jeta aucun regard en coin, et je bus avec les autres en espérant que Burick retiendrait fermement Orti chez lui. Puis, avec circonspection, je questionnais. Que pensez-vous de l'autre voix, celle qui a dit « Je te connais à présent ». Sans m'écouter, Lourd continua de grignoter des raisins secs. Devoir me considéra, l'air perplexe.
« Une autre voix ?»«
Tu parles de la jeune fille qui artisait avec tant de clarté ?»
demanda Imbre, manifestement surpris que j'attire leur attention sur elle. Il avait sans doute déjà compris qu'il s'agissait d'Orti. « Non, » répondis-je. L'autre voix, très étrange, très bizarre, très différente. Je ne trouvais pas les mots pour exprimer l'inquiétude qu'elle avait suscitée en moi, comme une sombre prémonition. Un silence suivit mes paroles, puis Devoir déclara. « Je n'ai entendu que la jeune fille qui disait « À Castelserre ?»«
Moi aussi ?»
renchérit Imbre.
Je n'ai capté aucune pensée cohérente après celle-là. J'ai cru que c'était à cause d'elle que tu avais rompu notre liaison.
Et pourquoi donc ? S'enquit de voir avec curiosité.
Non, fis-je en évitant la question du prince. Quelqu'un d'autre a parlé. Je vous le répète, j'ai entendu quelque chose, une espèce d'être, d'entité. Elle n'était pas humaine.
Cette affirmation extraordinaire détourna Devoir de ses efforts pour découvrir l'identité d'Orty. Mais comme tous assurèrent n'avoir rien perçu, ils ne la prirent pas au sérieux, et à la fin de la séance, je commençais moi-même à me demander si je n'avais pas été le jouet de mes sens.